L'horreur ne va pas sans l'imagination. Arthur Conan Doyle. Prologue.
Je vais mourir, mon père.
Le patient dévisageait le prêtre. Il cligna des yeux dans la pénombre de la chambre, un éclat vif entre ses paupières. L'homme qui venait de parler avait 58 ans, ancien décorateur dans le cinéma, il se mourait, en effet. Dehors, la nuit était orageuse, éclairs de chaleur, grondements encore distants au-dessus des montagnes. Dans la chambre, le bruit sourd, régulier, des machines. Et derrière la porte close, ceux du petit centre hospitalier, l'écho de pas et de portes, en dépit de l'heure tardive. Le prêtre se pencha. Son visage entra dans la lumière.
« Le crabe, il est partout, mon père !»
articula Mathias Laugier.
« Métastase, ils appellent ça. Moi, j'appelle ça l'ennemi, car c'est une guerre, et je l'ai perdu. J'avais aucune chance, de toute façon. »
Le visage du père Daniel Eyenga demeurait profondément concentré. C'était le patient qui avait réclamé sa présence. Le prêtre s'était renseigné auprès du personnel médical. Cancer de la plèvre, cancer pulmonaire en phase terminale, avec des atteintes du péritoine, du péricarde, des testicules, du larynx. L'amiante, très présent jusqu'à son interdiction sur les tournages de films, dans les décors et les équipements.
« L'amiante !»
dit Mathias Laugier comme s'il lisait dans les pensées du curé.
« Il y en avait beaucoup dans les décors de cinéma à l'époque, dans la peinture, dans les gaines de ventilation et même dans la neige artificielle, partout. Ils l'ont interdit depuis. Mais cette saleté de maladie met 30 ans à se déclarer. »
Le prêtre hocha la tête. Il avait devant lui, ouverte sur la tablette près du lit, une petite boîte en plastique renfermant une faible quantité d'huile qu'il avait bénie durant la dernière messe chrismale. Il enfila des gants avant de toucher le malade. Dans le halo de la lampe, le visage étroit, aux os saillants, pareil à des couteaux, était aussi gris que si on l'avait frotté avec de la cendre, les yeux enfoncés dans les orbites. Le prêtre balaya du regard la pièce faiblement éclairée, cherchant la poubelle. À cause du protocole anti-Covid, il n'avait pas le droit de sortir quoi que ce soit d'ici. Ainsi, les gants, la boîte et la pipette scellée contenant le vin consacré, dont il allait déposer une goutte sur la langue du malade en guise de communion, iraient tous dans la poubelle à pédales avant d'être incinérés. Il avait mis le vin de côté lors de la dernière messe, acheté la pipette dans une pharmacie.
« Ce n'est pas seulement pour recevoir l'onction des malades que je vous ai fait venir, » dit l'homme.
L'attention du père Eyenga se reporta sur le patient. Celui-ci avait prononcé cette dernière phrase avec une intonation des plus étranges.
« Si je vous disais ce que j'ai vu, mon père, vous en perdriez le sommeil, croyez-moi. Vous perdriez votre foi en Dieu. »
Le patient regardait fixement l'ecclésiastique. Ce dernier vit au fond des orbites du malade une lueur qui lui arracha un frisson.
« Que voulez-vous dire, mon fils ?»« L'enfer, mon père. J'ai été un de ces démons. »
Un souffle glacé passa sur la nuque du prêtre.
« Reprenez-vous, »
murmura-t-il d'une voix étranglée.
« Ne dites pas des choses pareilles. »
Il entendit la respiration caverneuse et il pensa aux poumons nécrosés.
« Vous n'avez pas idée, mon père, pas idée de ce que j'ai vu, de ce que nous avons fait. Je suis sûr que s'il y a une lumière au bout du tunnel, pour nous, ce sera celle des flammes de l'enfer. »
Il y avait quelque chose d'effrayant, d'un peu ridicule aussi dans les paroles du patient. Une larme roula sur sa joue ravinée. Soudain, la main qui avait une aiguille de perfusion enfoncée dans la veine serra celle gantée du prêtre. Eyenga sursauta. Puis la main le lâcha, se déplaça vers le tiroir de la table de chevet de l'autre côté du lit. Une enveloppe cachetée à l'intérieur. la main au long doigt noueux s'en saisit, l'attendit au prêtre.
« Vous le savez, mon père, avec cette saloperie du Covid, on n'a pas le droit de sortir quoi que ce soit d'ici, et je ne peux pas le faire moi-même. S'il vous plaît. »
Eyanga lança un regard coupable vers la porte.
« Vous savez bien que, moi non plus, je n'ai pas le droit, mon fils. »
Il ne s'habituerait sans doute jamais à appeler « mon fils » une personne plus âgée et à l'article de la mort.
« Tous les objets dont je me sers iront dans cette poubelle. S'il vous plaît, mon père, c'est important. »
La main qui brandissait l'enveloppe était agitée d'un tremblement. Le curé aperçut le dessin d'une spirale sur le papier kraft, ainsi qu'un prénom et un nom.
« Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il. « S'il vous plaît, mon père, faites ça pour moi. Vous devez la remettre en main propre. J'insiste. Ce sont mes dernières volontés. »
Une grimace de douleur contracta ses traits. L'homme avait l'air aux abois. Le prêtre regarda le nom inscrit sur l'enveloppe. « Kenneth Zorn. » « Curieux patronyme, » se dit-il.
« C'est qui ?»
voulut-il savoir.
« Vous le trouverez sans peine sur Internet. Je ne connais pas son adresse actuelle. S'il vous plaît, mon père, s'il vous plaît, c'est important. »
L'homme d'église consulta sa montre. Les heures des visites étaient passées depuis longtemps, mais il avait droit à quelques écarts ici, spécialement dans des situations comme celle-ci. De temps en temps, la pénombre de la chambre était illuminée par le flash d'un éclair de chaleur. Il régnait en ce mois de juin une température suffocante qui déposait un vernis de sueur sur le front sombre du prêtre.
« Mon fils, je vous en prie, mon père, je vous en prie !»
le supplia l'augier.
« Si vous voulez sauver une âme, s'il est encore temps de le faire !»
Eyanga hésita. Il avait la bouche sèche. C'était un curé moderne, féru de nouvelles technologies, de sciences, peu porté sur la superstition. Pourtant, une pensée irrationnelle venait de s'insinuer en lui. Celle qu'une forme de malveillance était à l'œuvre, ici, dans cette chambre. Le prêtre frissonna encore une fois comme s'il avait froid. Il n'avait qu'une envie, se tirer. Il prit l'enveloppe.
Qui était ce Zorn ?
Qu'y avait-il donc dans cette enveloppe de si important et pourtant de si léger quand il la palpa ? Plutôt un petit objet qu'une lettre. Un bijou ? Une clé USB ? Il la glissa dans la poche de sa veste, prit la boîte en plastique contenant l'huile bénite, oignit le front et les paumes du patient en répétant des phrases qu'il avait si souvent prononcées qu'elles avaient fini par se vider de leur substance.
« Dieu, notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. »
10 minutes plus tard, il filait le long des couloirs, émergeait avec soulagement dans la nuit chaude. Au-dessus des toits d'Aix-les-Thermes, les éclairs craquaient, pareils à des mains invisibles, déchirant le tissu de la nuit. Mais toujours pas de pluie. Il pressa le pas jusqu'à la place du Breil où était garée sa Volvo. Les cafés étaient fermés, les lumières de l'hôtel-restaurant éteintes, le parking de la place désert en dehors de sa voiture. Dans le silence de la petite ville endormie, l'église Saint-Vincent jetait son clocher contre la nuit et le profil des montagnes. Derrière elle, l'obscurité grondait flagellée de lueurs. Grondant, le cœur du prêtre l'était aussi. Ce qu'il avait ressenti dans cette chambre lui avait rappelé ce qu'il avait éprouvé, enfant, en assistant à une cérémonie bouitui dans son village au bord du golfe de Guinée. Tout était remonté à la surface. Les eaux inertes du delta, les mille et un bruits de la nuit africaine, les calebasses et les écuelles remplies de poudre de couleur, le féticheur psalmodiant des formules rituelles. Il avait 8 ans quand il avait assisté à la cérémonie, à la clarté des bougies. Il avait ressenti ce soir le même pouvoir obscène plus fort que la mort, la même crainte atavique. Pourquoi ? Qu'avait-il perçu que sa raison ne pouvait appréhender ?